BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Comment va la santé des jeunes, en particulier des jeunes femmes? Eh bien, la réponse se trouve en partie dans la grande enquête qu'a réalisée le Lab EMI avec Opinionway. La directrice générale de ce fonds de dotation nous en révèle les surprenants résultats. Beaucoup disent qu'en France, nous sommes bons pour aider les startups en amorçage, les faire démarrer, mais moins bons pour leur développement, en particulier à l'international. Eh bien, c'est dans ce domaine qu'agit l'Auxera, le fonds d'investissement dédié à la medtech et à la santé digitale. Pierre Moustial, son président fondateur, est sur le plateau de Check-up Santé. Enfin, coach sportive internationale, plutôt spécialiste de la femme, Alexia Cornu sort dans quelques jours un livre qu'elle a coécrit avec Bérangère Philippon. Le livre s'appelle « Cuisine Bérangère, bouge avec Alexia ». Chez Larousse, elle nous fait l'honneur d'être le premier média à en parler. Céline Bérardeau, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Check-up Santé.
Merci.
Vous êtes la directrice générale du fonds de dotation, le Lab EMI. Alors, le Lab EMI, c'est quand même important de dire comment ça s'écrit. Ça s'écrit H-E-Y-M-E.
H-E-Y-M-E, absolument.
Donc, le Lab EMI. Alors, rappelez-nous ce que c'est qu'un fonds de dotation.
Alors, un fonds de dotation, c'est une forme de fondation d'entreprise qui a pour but de soutenir ou de mettre en place des actions à but non lucratif ou d'intérêt général.
D'accord. Et le vôtre a été créé il y a...
Le nôtre a été créé en 2017 par l'ASMEREP, notamment, qui est l'ancienne mutuelle étudiante.
Ça me rappelle ma jeunesse.
Voilà, qui s'appelle désormais EMI et qui commercialise des complémentaires santé et des assurances pour les jeunes et les étudiants.
D'accord, donc ce fonds d'attention est financé principalement par cette mutuelle.
Exactement.
D'accord.
Par l'ASMEREP.
D'accord, et vous, ce financement, donc, il ne vient pas d'ailleurs, il ne vient pas de l'État?
Pour le moment, non. Nous sommes encore un peu jeunes, 2017, ouais. Donc on a une dotation initiale. Mm-hmm. Et pour le moment, nous n'avons pas encore d'autres dotations.
D'accord, donc c'est un appel que vous lancez, éventuellement?
Absolument.
D'accord, vous avez bien fait de venir. Alors là, vous nous amenez les résultats d'une grande enquête sur la santé des jeunes femmes, par l'intermédiaire d'Opinionway.
Oui.
Combien de jeunes femmes ont été incluses, et lesquelles?
Alors nous avons interrogé 1001 femmes, entre 14 et 28 ans, et on a trois panels différents, de 14 à 19 ans, de 20 à 24, et de 25 à 28.
D'accord, avant d'en détailler les résultats qui sont... On a l'impression que pourrait mieux faire, non, sur la santé des femmes.
Pourrait mieux faire, oui. On pourrait moins faire.
Y a vous des avez chiffres... été surprise des résultats.
J'ai été surprise par. Nous avons été surpris, oui, par un grand nombre de chiffres. On va y revenir, mais notamment sur l'accès aux soins, ce genre de choses. Il y a des chiffres sur lesquels qui doivent, en tout cas, nous alarmer, et on doit prendre conscience, du mouvement à entamer dans certains domaines.
D'accord, donc les réponses, elles sont un petit peu, on les a catégorisées sur quatre piliers.
Oui.
La santé physique et mentale, la vie sexuelle, les règles, la contraception.
Absolument.
Les comportements alimentaires et les addictions.
Absolument.
C'est bien ça. Alors, sur la santé physique, les jeunes femmes se portent bien?
Alors, les jeunes femmes se portent plutôt bien, puisque 81% des sondées, donc ça correspond à peu près à trois quarts des femmes interrogées, nous disent être plutôt en bonne santé, enfin se considérer plutôt en bonne santé. En revanche, sur la santé mentale,
oui.
Les chiffres sont beaucoup moins bons, puisqu'on passe à 51% qui se disent être plutôt en bonne santé, et on a 22% d'entre elles qui nous disent être en état de santé mentale plutôt moyenne, et 9% qui nous disent que vraiment, là, elles sont en situation de fragilité mentale.
Donc un tiers qui ne va pas très bien.
Un tiers qui ne va pas très bien, et 13% quand même qui déclarent avoir des syndromes de dépression ou des problèmes psychiques.
Ou des maladies chroniques.
Voilà.
D'accord. Et vous avez parlé aussi du rapport des jeunes femmes avec leur entourage, en qui elles font le plus confiance.
Oui.
Quelle est la première
absolument.
Personne en qui elles ont confiance?
Alors ça,
elles vont s'adresser.
Ça, c'est une donnée qui est plutôt rassurante. Hein. C'est ce qu'on appelle le collectif protecteur. On se rend compte que le médecin traitant reste l'interlocuteur privilégié pour les jeunes. Et c'est plutôt
avant
une bonne
famille.
Chose. Avant la famille, qui se place, elle, en deuxième position. Mm-hmm. Ensuite, vient les pharmaciens. Et il y a une donnée qui est plutôt rassurante, mais qui m'a interpellée. Les réseaux sociaux n'arrivent qu'en huitième position.
D'accord.
J'imaginais que ça pouvait arriver dans le top 5.
Et le gynéco aussi, qui n'est pas très sollicité.
Il vient beaucoup plus tardivement, oui.
Pourquoi? Parce qu'on a peut-être du mal à le joindre.
Écoutez, on a 6 femmes sur 10 qui nous déclarent voir des gynécologues. Donc ça, c'est quand même très peu. Hein, c'est quasiment une femme sur deux. Et ça interpelle, notamment, c'est également lié à cette problématique d'accès aux soins. puisqu'on les a interrogées, les femmes, sur ce sujet. Et,
une bonne partie qui renonce aux soins.
32% renoncent aux soins. Et quand on les interroge sur la raison, on a 43% d'entre elles qui nous disent que les délais sont trop longs et 33% qui nous disent que ça coûte trop cher.
D'accord. Le deuxième pilier, c'est la vie sexuelle.
Oui.
Les règles.
Absolument.
Sujet tabou,
et dont on souhaite parler, puisqu'il faut en parler. On en parle de plus en plus, mais à notre sens, pas encore assez. Nous avons interrogé les jeunes femmes sur le vécu de leurs règles, parce qu'avec le fonds de dotation, nous avons créé un site qui s'appelle EndoBloom, qui est dédié à l'endométriose, qui a été créé en 2022. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons activement depuis 2 ans. Et quand on interroge les femmes sur le vécu de leurs règles, on a 38% qui nous disent qu'elles le vivent plutôt bien et 31% qui ne le vivent pas bien. En revanche, on a une femme sur deux qui nous indique...
Je ne sais pas ce que ça veut dire, vivre bien ses règles.
Non, c'est plutôt... En tout cas, femmes, 97% toutes les femmes nous disent qu'elles ressentent des symptômes. Mais on a quand même une femme sur deux qui nous disent qu'elles se sont absentées soit du travail, soit des cours, de l'école, parce que les douleurs étaient trop fortes.
Alors, un chiffre aussi incroyable, c'est que 60% seulement des jeunes femmes utilisent une contraception.
60% seulement.
Font les 40% alors?
Alors, les 40 autres pourcents, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, pour la majorité d'entre elles, elles vous disent ne pas avoir d'activité sexuelle et donc, par conséquent, ne pas avoir besoin d'avoir recours à une méthode.
À la limite, on peut comprendre entre 14 et 18 ans, peut-être, non?
Absolument. En revanche, on a quand même 13% des femmes qui nous disent qu'elles ont peur des effets secondaires, qu'elles en ont déjà ressenti et qu'elles ont peur. Donc, là encore.
Malgré toutes les campagnes de communication.
De communication. Donc, encore une fois, on se rend compte que le message à délivrer est encore nécessaire, qu'il y a encore beaucoup de travail en la matière.
Sur le plan alimentaire, beaucoup de femmes, ça aussi c'est étonnant, près du tiers, donc essaient de maigrir.
Oui, alors, sur le plan alimentaire, on a une donnée qui est rassurante, c'est que 41% nous disent quand même qu'elles adoptent une alimentation plutôt saine et équilibrée au quotidien. Mais effectivement, comme vous le dites, on a encore des femmes et la proportion augmente avec l'âge, puisqu'on voit que les 14-19 ans nous disent à 16% qu'elles ont déjà eu recours au régime pour perdre du poids. Et la proportion augmente à 19% sur la tranche 19-24 ans. Et ensuite, on atteint quand même les 27% sur les 25-28
ans. Gros sujet. Épidémie mondiale, pandémie, je dirais. Pour finir, donc sur les addictions, évidemment, l'addiction principale, c'est
l'addiction aux écrans.
L'addiction aux écrans.
Voilà, l'addiction aux écrans. Les femmes que nous avons sondées ont conscience de cette addiction, puisque la plupart d'entre elles, donc 65%, nous disent qu'elles passent trop de temps, qu'elles ont conscience de passer trop de temps sur les écrans. Pour 53% d'entre elles, plus de 4 heures par jour. Donc, c'est quand même un chiffre important.
Bien sûr.
Et nous, avec le label IMI...
C'est pour ça que les adolescents, en 20 ans, ont perdu 20% de leur performance.
Absolument. Nous avons
obtenu... Ils ne dorment plus, ils sont plus concentrés, ils sont fatigués.
Tout à fait. Et c'est un vrai sujet. Nous avons obtenu en 2020 l'agrément de l'Académie de Paris pour justement être un acteur de prévention sur ces sujets, notamment au sein des collèges, puisqu'on essaye de faire de la prévention chez les plus jeunes leur faire prendre conscience des choses.
Alors, autre addiction, l'addiction au cannabis. Là, on voit que 15% seulement des jeunes femmes ont déjà consommé du cannabis.
15%.
Là aussi, on est étonné, on a l'impression que ça pourrait être plus.
On pourrait penser que ça pourrait être plus, effectivement. C'est un chiffre, pour le coup, qui, lui, est plutôt rassurant. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que la majorité des femmes, la très grande majorité, nous disent qu'elles y ont recours plutôt dans un cadre festif et pas du tout dans des périodes de dépression pour aller mieux ou ce genre de choses. Et on fait le même constat avec l'alcool. C'est vraiment des substances qui sont utilisées dans des cadres plutôt festifs.
Ouais, on est loin du binge drinking.
Absolument.
Très bien. Vous sentez que les jeunes femmes fument moins?
Les jeunes femmes fument moins.
Ouais.
10% 10% des jeunes femmes fument sur la population.
Donc pour finir votre mission, donc c'est quoi? C'est d'informer, de sensibiliser.
D'informer, de sensibiliser et d'accompagner avec des actions terrain concrètes. Surtout être dans une vision positive. On essaye vraiment d'aborder les thématiques avec un point de vue positif et pas dans la répression ou voilà.
Et pour ça, vous avez besoin de financement, donc à bon entendeur.
À bon entendeur.
Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Céline Bérardot. On va à présent accueillir Pierre Moustial, qui est le président du fonds Loxera.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Pierre Moustiel, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes diplômé de l'HEC, c'est toujours sympa de le dire, hautes études communales. Et vous êtes passé, vous avez un long parcours dans la santé, parce que vous êtes passé par Urgo, Fournier, etc. Vous êtes président d'honneur de MedTech in France. Et vous avez créé le fonds d'investissement Loxera Capital Partners que vous dirigez. Donc avant de parler de votre fonds, quel est le contexte aujourd'hui autour de l'investissement? C'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière, la guerre, l'inflation, etc. Est-ce que ça a un impact sur l'investissement?
Oui, il y a vraiment un monde d'avant et un monde d'après. Je dirais, ce qui a été l'événement le plus marquant, je pense, c'est la remontée des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt, c'est la mesure du risque et la mesure du temps. Et depuis, je dirais, 2022, on va dire, il y a eu quand même un effondrement de certaines valeurs, notamment au Nasdaq. Alors, moi, j'ai la chance d'être dans le secteur de la santé, qui est un secteur qui est beaucoup plus résilient. Donc nous, on a vu ce phénomène, bien sûr, notamment sur les sociétés qui sont encore en perte, qui ne sont pas encore au niveau de la rentabilité, mais dans une moindre mesure que, je dirais, dans l'économie en général.
Donc on ne parle pas encore de cimetière des startups?
Non, on a des startups qui sont plutôt bien financées. C'est sûr qu'elles mettent plus de temps. Elles doivent faire des plans d'économie. Une startup aujourd'hui qui n'est pas capable de démontrer qu'elle va passer le seuil de rentabilité n'a aucune chance de lever de l'argent dans de bonnes conditions.
Alors votre fonds donc est dédié à la santé, c'est-à-dire MedTech et santé digitale, c'est bien ça?
Alors on appelle ça la HealthTech, donc par défaut, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique et les biotech qui recherchent des médicaments, et ce n'est pas non plus les services, donc les chaînes d'hôpitaux, les chaînes de laboratoires de radiologie par exemple.
Ça inclut la e-santé par exemple,
La e-santé, les softwares et effectivement les technologies médicales.
D'accord, et votre particularité c'est que vous n'agissez pas qu'en France, vous ne sévissez c'est pas qu'en France?
Non, alors d'abord on est sur un marché mondial, et donc quand on a un entrepreneur qui a fait une belle innovation médicale, il a envie de la projeter dans le monde entier et de la faire bénéficier à tous les patients. Et donc nous, notre métier, je dirais, c'est de trouver une belle entreprise sur son marché national, la France, l'Allemagne, la Scandinavie, les Pays-Bas.
Et de... vous êtes implanté un peu...
On fait vraiment de l'investissement en Europe. Ouais. Le terrain de jeu, c'est pas la France, c'est l'Europe, un peu les États-Unis, mais surtout notre prise, c'est de prendre une belle entreprise européenne et de la projeter sur le marché international et en particulier sur les US, puisque le marché américain, c'est 60% du marché mondial de la health tech. Et donc, si on veut devenir un champion du monde, il n'y a pas d'autre option que de réussir aux États-Unis.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'en France, on est bon pour, on dit toujours, on est bon pour l'amorçage, pour le démarrage, aider une entreprise à sortir de, mais on est un petit peu moins bon pour quant au développement. Pourquoi?
Alors, c'est tout à fait ça. J'ai l'habitude de dire, en France, on n'a pas un problème de start-up, on a un problème de scale-up. Et donc, c'est vrai qu'à l'amorçage, on est très très bon. On est même meilleur que les Américains par million d'habitants.
Grâce à des institutions comme la BPI, voilà.
Alors, parce que, d'abord, on a le crédit impôt recherche qui est vraiment très puissant et qui est un outil unique au monde. Mmh. Effectivement, la BPI joue un rôle assez fantastique. On a des très bonnes écoles d'ingénieurs. Et dans la HealthTech, on a besoin d'ingénieurs. Mmh. Et donc, on a, en termes d'innovation, trois fois plus d'innovation en France qu'aux États-Unis par million d'habitants dans la HealthTech. Donc on n'a pas de problème d'amorçage. Là où on a un problème, c'est le fameux scale-up. Donc c'est le passage à l'échelle et c'est le fait de rendre son innovation mondiale.
Ça veut dire qu'on n'a pas de capacité financière ou...
Alors on a deux problèmes. Alors effectivement, on a d'abord un problème de finance, c'est que la plupart des entreprises ont été trop rapidement en bourse alors qu'elles n'avaient pas de chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce que les Américains appellent ça le road to nowhere. Parce que quand vous êtes en bourse avec pas de chiffre d'affaires, au moindre éternuement du marché, vous faites moins 60%, c'est terminé. Et deuxièmement, parce que nos entrepreneurs qui sont géniaux, ingénieurs ou médecins, sont quelquefois un peu naïfs sur ce qu'il faut pour réussir. Et l'innovation médicale, c'est bien sûr très important, mais ça ne va pas suffire pour conquérir le marché américain.
Vos tickets d'investissement, c'est de quel ordre en général?
Nous, on met entre 10 et 30 millions d'euros par investissement, par entreprise.
Ah oui, quand même.
Mais on est souvent le lead ou le co-lead de l'opération et on amène avec nous d'autres investisseurs, qui peuvent être nos investisseurs ou d'autres investisseurs, et on fait en général les tours de table entre 50 et 100 millions d'euros parce que si on veut réussir aux États-Unis, on ne peut pas bricoler, on ne peut pas envoyer un stagiaire. Ouais. Il faut vraiment se donner les moyens. C'est un marché qui est très cher à conquérir, mais si on veut se donner une chance, il faut vraiment lever la bonne quantité d'argent pour avoir la bonne implantation.
Vous avez une expérience, vous avez des ponts avec les États-Unis pour pouvoir...
Oui, alors d'abord, mes deux cofondateurs sont américains. Sam Levy, qui est un entrepreneur américain qui a eu un succès fantastique, d'ailleurs introduit son entreprise au NICE, et Alex Lack, qui est basé à San Francisco. Donc on est basé entre Paris et San Francisco.
Parlez-nous de l'initiative Tibi.
Alors, c'est une initiative qui est formidable parce que, comme vous le soulignez tout à l'heure, on est très fort dans l'amorçage. On a également des très gros fonds d'investissement dans ce qu'on appelle les fonds LBO. Le gros problème qu'on a, c'est le trou dans la raquette. entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de fonds, finalement, dans la tech, qui sont capables de mettre des tickets importants, donc 10, 20, 30, 50, 100 millions d'euros, pour aller à l'international. Et l'initiative Tibi, pour moi, est extrêmement intéressante, c'est qu'elle a comblé ce trou dans la raquette, puisqu'elle a fléché l'argent des gros institutionnels français qui font partie de cette initiative.
Par exemple,
par exemple, on va trouver Covea, on va trouver Matmut, on va trouver Groupama, etc. Donc il y a 25 ou une trentaine maintenant d'investisseurs. Ils augmentent un peu toutes les initiatives. On est déjà la deuxième initiative. Et ces investisseurs, donc finalement, ont fléché, ont réservé des poches d'investissement pour aller dans des fonds de growth comme l'Oxera, et donc indirectement finance ces entreprises françaises et européennes.
Oui, tout ça, il y a une validation d'État peut-être une...
Oui, donc il y a un comité technique avec Philippe Tibi qui fait une présélection, puis ensuite il y a un vote des institutionnels. Il y a déjà eu deux initiatives, et l'autre fonds, l'Oxera 1, a été labellisé, et on vient d'être labellisé en décembre pour l'Oxera 2, qui est le fonds qu'on va lancer dans quelques mois.
D'accord, vous avez quelques exemples pour finir d'entreprises dans lesquelles vous avez investi?
Oui, bien sûr.
Qui sont développées à l'international?
Absolument. Donc, il y a par exemple une entreprise fantastique, une pépite française qui s'appelle Verdo, qui est basée à Rion, en Auvergne, et qui développe des équipements pour purifier les molécules biologiques.
Oui, donc, quand on son nom, donc, Verdo.
Voilà. Ouais. Quand on fait de la thérapie génique, on a des fabrications qui sont très complexes. Donc, on a besoin d'équipements qui s'appellent les équipements de chromatographie. Et Verdo est une des pépites mondiales, puisqu'elle vend 90% à l'international.
D'accord.
Donc à des groupes vraiment américains, allemands, anglais, etc. Et on a investi donc il y a 2 ans, et notre optique, c'était de la transformer en société qui faisait de l'export, en société qui est vraiment internationale. La différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Verdo a sa filiale aux États-Unis.
D'accord, parce qu'il y a une différence, vous le disiez vous-même, il y a une différence entre export et international.
Oui, c'est pas du tout un continuum. On commence par exporter avec quelqu'un dans son organisation en France. L'international, c'est pas ça. C'est d'avoir des Américains aux États-Unis qui parlent à des clients américains. Et c'est vraiment l'étape qui permet ce passage à l'échelle, mais ça demande des investissements bien supérieurs à une stratégie purement export.
Eh bien, bravo pour ce que vous faites pour nos startups françaises. Merci beaucoup, Pierre Mouscal.
Merci.
Voilà, on va finir en beauté et en forme avec Alexia Cornu pour son livre sur le sport et la nutrition. Cuisine Bérangère, bouge Alexia.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Alexia Cornu, bonjour.
Bonjour.
Alors merci de venir, d'avoir pris un vote du Portugal pour l'émission de Check-up santé. Franchement, merci beaucoup. Quand j'ai dit que vous étiez international, c'est vrai, vous avez beaucoup vécu aux États-Unis, c'est ça, non?
Exactement, pendant presque 8 ans dans la Silicon Valley, ouais. Et puis depuis 2 ans au Portugal.
Voilà, vous partagez un peu entre la France et le Portugal, un petit peu?
Exactement.
Alors donc vous êtes une coach sportive?
Oui.
Plutôt spécialisée en physiologie féminine, c'est ça?
Exactement, je me suis spécialisée dès le début sur tout ce qui était santé de la femme.
Vous avez vu que dans cette émission, on parle beaucoup des femmes.
Hein. C'est parfait, bon. On adore.
Ouais.
Exactement.
Donc physiologie féminine, oui.
Exactement, physiologie féminine, j'ai commencé vraiment sur le sport santé. Et je me suis rendue vite compte qu'il fallait absolument sensibiliser les femmes au sport pour vieillir en bonne santé, tout simplement.
Pourquoi? Parce qu'elles font moins de... Elles sont moins aptes à pratiquer de l'exercice, ou alors il y a une spécificité du sport au féminin?
Il y a vraiment les deux. Alors forcément, elles vont être souvent moins sensibilisées à prendre du temps pour elles, à prendre soin d'elles, de leur santé. Ça va toujours être souvent un petit peu les autres d'abord, et donc elles vont se faire passer un petit peu en dernier, et elles arrêtent l'activité physique, ce qui est très néfaste pour leur santé. Et puis ensuite, avec l'âge qui avance, l'arrivée des symptômes de la périménopause, eh bien il y a une fonte musculaire qui est très importante, où là il y a énormément de douleurs qui arrivent et de risques également pour leur santé.
Donc vous vous exercez particulièrement en digital, c'est bien ça?
Exactement, oui. À partir du moment où il y a eu la pandémie en 2020, j'ai complètement digitalisé mon activité. À l'heure, je faisais que du présentiel. Et donc, j'ai décidé de tout ce que j'avais appris en fait en 10 années de pratique en individuel, de les mettre sur des programmes accessibles en ligne pour pouvoir faire davantage de prévention auprès des femmes.
Et de toucher plus de personnes, évidemment.
Totalement, oui. Parce que quand on est en individuel, forcément, on peut coacher beaucoup moins de personnes.
Alors, vous avez coécrit votre livre avec Bérangère Bérangère Philippon, qui est coach nutrition, qui est auteur de best-seller, c'est ça?
Exactement. Bérangère, qui est venue me chercher pour ce magnifique ouvrage, donc, qui est coach recettes et nutrition, qui sensibilise sur le sucre, justement, l'alimentation IGBA, donc indice glycémique bas, et avec qui on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux quand j'étais encore à l'étranger. Et quand je suis rentrée en Europe, on s'est rencontrés, et c'est elle qui m'a parlé de ce projet de livre où elle avait envie d'intégrer la dimension justement de prévention grâce à l'activité physique.
C'est vrai que c'est toujours bien de dire que le sucre c'est presque pire que la graisse presque.
Mais c'est tout à fait. Qui parle, oui. Mais totalement. Et ça, c'est vrai que c'est. En fait, pendant des années, on a fait la guerre aux œufs, par exemple, ou aux graisses, en disant qu'il ne faut surtout pas en manger. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le stockage des graisses est en partie dû à une consommation trop importante de glucides et une mauvaise répartition avec les fibres. Et donc, de pouvoir éduquer les gens là-dessus, je pense que c'est primordial pour leur santé.
Donc, vous dites que le sport, c'est vraiment lié à la nutrition ?
Pour moi,
l'objet de votre
totalement, c'est une approche globale qui fait vraiment du sens. Je parle de la nutrition, je parle du sport, mais également la gestion du stress et le sommeil. Et pour moi, ça, c'est vraiment les quatre piliers pour être en bonne santé. Donc, on ne peut pas retirer l'activité physique et se dire on va s'attaquer uniquement à l'alimentation.
Est-ce qu'il y a une différence au niveau du coaching sportif et même nutritif entre une femme de 35 ans et une femme de ménopausée ou une femme de 70 ans, bien sûr?
Oui, on va adapter. Ce qui est important de savoir, c'est que la prévention, les conseils qu'on va donner en termes de sport, par exemple, sont applicables à tout le monde sur la prévention. Après, ce qui va être important, c'est quand la femme arrive dans la périménopause, la ménopause, c'est de tenir un petit peu plus compte des spécificités de la diminution des œstrogènes et donc de faire davantage de renforcement des os, donc pour prévenir de l'ostéoporose, donc un petit peu plus attention au sport avec impact, mais micro-impact bien sûr, et puis préserver également le périnée qui est un muscle qui peut à ce moment-là en fait être affecté, et donc de faire des exercices spécifiques, si ça n'a pas été fait avant en tout cas, de pouvoir préserver son périnée.
Vous avez combien de on a passé à des followers et
Oui, les followers j'en ai plus de 110 000
quand même.
Voilà, et l'année dernière j'ai accompagné 1500 femmes.
Accompagner 1500
en coaching,
femmes.
Ouais.
D'accord. Et toujours à chaque fois du coaching de groupe, peut-être, non?
Oui, exactement. Donc, du coaching de groupe avec une partie individualisée qui me tient vraiment à cœur. Donc, de pouvoir à la fois mettre un petit peu ce qu'on appelle le tronc commun, en gros, tout le préventif, de pouvoir avoir tourné des vidéos, ça me permet d'avoir cette base-là que tout le monde peut consulter. Et ensuite, de garder, moi, mon temps pour faire les ajustements avec de l'individuel.
Alors, vous insistez beaucoup, vous avez raison, hein, c'est pas moi qui vais vous contredire, sur l'importance de la reprise de l'activité physique.
Oui, pour moi, la
très souvent mal faite.
En fait, le problème, c'est que c'est toujours tout ou rien. Et après, quand on fait du tout ou rien, on part dans du foutu pour foutu dès qu'on a loupé deux séances. Alors qu'au final, si on veut que ça fonctionne sur le long terme, tout est dans la progression. Et ça, c'est quelque chose qui est valable, mais vraiment dans tout. Quand on se met au régime restrictif, en fait, on va avoir une frustration et derrière, on va manger deux fois plus. Quand on fait du sport de façon trop intense, d'un coup, quand on se remet au sport et qu'on ne respecte pas une progression,
on va dans le sens inverse.
En fait, on se crée des douleurs, on va se blesser. En plus de ça, la récupération musculaire ne va pas avoir le temps de se faire correctement. Et donc, en fait, on rentre dans un surentraînement. Et le surentraînement, en fait, il a l'effet inverse, ce qui fait que c'est délétère pour le corps. Et donc, soit on se blesse, soit on abandonne, soit c'est trop dur, on se décourage. Alors que toute la clé est dans le fait de progresser.
Ouais, sauf qu'on a beau le dire, parfois, les femmes et les hommes sont impatients. Et on sait que dès le mois de mai, les femmes veulent perdre 40 kilos et les hommes veulent ressembler à Schwarzenegger pour le mois d'août.
Exactement.
Et c'est compliqué. Donc,
c'est vrai.
Parfois, même, ce sont vos clients qui vous mettent la pression, non?
Oui, alors. Souvent, moi, je mets les choses à plat tout de suite à chaque fois avec elles. C'est que quand, par exemple, donc je dis elles parce que je travaille essentiellement avec des femmes, mais quand elles viennent me voir pour perdre 10 kilos qu'elles ont pris sur les 10 dernières années, j'essaye de remettre dans le contexte en disant on ne va pas perdre en 6 semaines ce qu'on a pris en 10 ans. Et donc, juste de faire un pas de recul et de se dire ok, là, qu'est-ce qui est le plus important pour retrouver du confort au quotidien, se sentir mieux dans son corps. Et de remettre en place les premiers réflexes, de bien s'hydrater, de revoir un petit peu l'équilibre alimentaire, de se remettre en mouvement progressivement. Et ce qui va permettre ensuite de reprendre le goût de l'effort, le goût de bien manger aussi, et puis de se sentir bien, même si les kilos...
Oui, on le voit dans votre bouquin, la nutrition, c'est le côté positif de la nutrition, c'est l'alimentation plaisir.
Exactement, on n'est pas du tout sur des régimes, et pareil pour le sport, on n'est pas sur du no pain, no gain, où il faut absolument faire des choses difficiles. J'essaye toujours de sensibiliser sur le fait qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour avoir des résultats, au contraire de faire attention, parce que quand le corps souffre, il envoie un message, et de toujours écouter son corps et d'y aller progressivement.
On est parfaitement d'accord. Merci beaucoup. On va savourer votre livre et suivre vos conseils. Merci beaucoup, Alexia Cornu. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé. au cœur de l'innovation santé.